Il devrait à terme remplacer les vieux trains à moteur diesel. Le tout premier train à hydrogène entre aujourd'hui en service en Allemagne. Bonjour Émilie Gautreau.
Bonjour Céline.
Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi l'hydrogène est présenté aujourd'hui comme un pilier de la transition énergétique. On va tout d'abord écouter Olivier Delecroix. C'est le directeur commercial du groupe Alstom qui a fabriqué ce nouveau train. Il était tout à l'heure notre invité sur France Info.
Il respecte, je dirais, l'objectif écologique qui permet de ne pas émettre du tout de polluants et d'émissions de CO2, mais il le fait de façon réaliste. Parce que en fait, aujourd'hui, dans tous les pays, en Allemagne comme en France d'ailleurs, vous avez une partie très importante du réseau ferré qui n'est pas électrifié. Il est illusoire d'imaginer qu'on pourra l'électrifier un jour parce que les coûts sont évidemment beaucoup trop importants, les coûts d'infrastructure sont très importants. Et donc le Hailing permet de garder une infrastructure qui est non électrifiée, mais de rouler dessus de façon totalement propre, sans aucune émission.
C'est le hasard du calendrier peut-être, mais on a appris ce matin que la SNCF allait s'allier à Alstom et à plusieurs conseils régionaux pour une alternative, tester des TER hybrides qui fonctionneraient alors non pas à l'hydrogène, mais à l'électricité, au diesel ou avec des batteries lithium. Premiers essais pour 2020. On teste ce système-là en France. Pourquoi ? C'est moins cher du coup ?
Alors c'est différent. Les deux systèmes sont d'ailleurs complémentaires. L'hybride, qui est une technologie qui est très connue dans le monde de l'automobile, c'est une technologie qui ne permet pas de faire du zéro émission puisqu'il reste un moteur diesel sur le train et donc il subsiste des émissions. Certes, il y en a moins. Par contre, l'objectif de l'hybride, c'est de faire des économies. Parce que tout comme une voiture hybride, la consommation de gasoil est fortement réduite. On a fait des simulations qui montrent qu'on peut diminuer la consommation d'environ 20%. Et donc l'objectif qui est poursuivi par la SNCF, par les régions de lancement que sont Grand Est, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, c'est de faire des économies sur l'exploitation des TER.
Et ça cohabitera avec les trains actuels, on imagine bien, ce sera seulement des prototypes. Ça risque de prendre beaucoup de temps pour généraliser ce genre de modèle.
Alors, le premier train, qui est effectivement un prototype, vous avez raison, va rouler en 2020, ce qui n'est pas si lointain. Par contre, nous avons, avec la SNCF et avec les différentes régions, un objectif de généraliser ou au moins d'étendre cette technologie à partir de 2022. Et je pense qu'une fraction assez importante de la flotte de trains diesel pourrait basculer dans un mode hybride aux alentours de 2022.
Olivier Delecroix, le directeur commercial du groupe Alstom, qui était tout à l'heure l'invité d'Augustin Harry. L'hydrogène donc pour faire avancer les trains, l'hydrogène pour faire avancer aussi des voitures. Émilie Gautreau, expliquez-nous pourquoi l'hydrogène est souvent présenté comme l'énergie du futur.
L'hydrogène est utilisé depuis longtemps dans l'industrie, mais depuis le début des années 90, la molécule fait l'objet de recherches comme moyen de fournir de l'énergie, entre autres dans les transports. La clé pour coordonner l'ensemble des outils de la transition énergétique, avait même dit en juin dernier celui qui était ministre de la transition énergétique, Nicolas Hulot, avait alors présenté un plan à sortie d'une enveloppe de 100 millions d'euros pour accélérer le développement en France de la filière hydrogène, avec l'objectif de faire à terme de la France un leader mondial dans le domaine.
Alors en quoi ce train allemand à hydrogène est-il propre ?
Ce train ne rejette aucune émission de gaz à effet de serre, de CO2, il ne rejette que de la vapeur d'eau. Il est en fait propulsé par une pile à combustible alimentée par des réservoirs d'hydrogène compressé présents sur le toit. L'hydrogène interagit avec l'oxygène capté dans l'air ambiant et permet de produire de l'électricité. Soit utilisée par les moteurs, soit stockée dans les batteries. Un système de convertisseur-inverseur assure que l'électricité provenant de la pile et des batteries alimente correctement le moteur en fonction des besoins. Il assure aussi la récupération de l'énergie de freinage du train. Ce train a une autonomie de 1000 km et est particulièrement intéressant sur les lignes régionales non électrifiées. Plusieurs constructeurs automobiles travaillent, eux, à la production de voitures électriques à hydrogène. Il y a aujourd'hui quelques dizaines de milliers de voitures à hydrogène dans le monde.
Bon, et où est-ce qu'on le trouve, cet hydrogène?
Eh bien, c'est là que les choses se compliquent, Céline. L'hydrogène est produit aujourd'hui à 95% dans le monde par du gaz naturel que l'on casse. Un kilo d'hydrogène génère en moyenne, quand on le produit, 10 kilos de CO2, on y revient. Celui qui alimente le corradia allemand est issu du reformage du méthane, une technique qui émet du CO2 et rejette aussi du méthane, autre gaz polluant.
Alors, comment faire pour ne pas polluer ?
Eh bien, il existe une autre technique de production de l'hydrogène, l'électrolyse de l'eau, l'eau H2O, souvenez-vous,
oui.
Deux atomes d'hydrogène, un atome atomes d'oxygène. Grâce à un courant électrique, on récupère les molécules d'hydrogène, sauf que la production par électrolyse coûte très cher.
Alors la technique intéresse particulièrement en accompagnement, Émilie, du développement des énergies renouvelables.
Énergie solaire ou éolienne, d'autant qu'elle est considérée comme un moyen de stocker le surplus d'électricité. En Guyane, un projet de centrale électrique associant solaire et stockage d'hydrogène est en cours. Au Danemark, le groupe français Air Liquide a construit et exploite une unité de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau qui permet de stocker le surplus d'électricité sous forme d'hydrogène, utilisé ensuite pour l'industrie et le transport.
On voit effectivement que c'est pas si simple. Merci beaucoup Émilie Gautreau. Expliquez-nous votre rendez-vous tous les jours sur France Info.